Un rideau se tire. Un rideau se lève. La nuit crépite son vivant. Quand le petit matin nous dit viens. L'ADN, l'émission qui se promène dans le champ du mouvement. En cheminant, Magali se met à l'écoute d'actions, d'événements ou encore de témoignages d'acteurs et actrices remarquables des territoires drômois et ardéchois qui agissent et réagissent au cœur de l'incontournable transiliance qui s'opère dans ce contexte flex et complexe de ce début de troisième millénaire. L'ADN aujourd'hui prend de la hauteur. Je me trouve à la chapelle en Vercors. Je vais aller à la rencontre de Jean-Éric Derangeau, qui est le vice-président de Vercors Soleil. Mais qu'est-ce que Vercors Soleil ? Une société aux couleurs collectives. Il y a question d'énergie durable, ensemble, en territoire. Donc, je viens de retrouver Jean-Éric à la Maison de l'Aventure. Jean-Éric, vous êtes vice-président de Vercors Soleil.
Tout à fait. J'ai été président pendant presque 10 ans, depuis la création de la société citoyenne des centrales villageoises Vercors Soleil. Et j'ai passé la main au printemps à une nouvelle vice-présidente, qui est Carole Achard, qui habite à Vassieux. Et j'ai pris la place de vice-président pour la seconder aussi dans cette transition.
Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter quelle est cette aventure de Vercors Soleil ?
Alors, Vercors Soleil, en fait, c'est une centrale villageoise, donc on dépend d'un réseau national qui a été initié dans les années 2010 par les parcs naturels régionaux, dont celui du Vercors, et la région Auvergne-Rhône-Alpes grâce à des fonds européens. Et c'est l'agence qui s'appelait à l'époque Rhône-Alpes Énergie Environnement qui a créé le modèle et le principe des centrales villageoises, qui donc consiste à la base, développer les énergies renouvelables et la transition énergétique d'une façon plus large. Ça se traduit dans les faits par la mise en place, pour l'instant surtout, d'installations photovoltaïques en toiture. Donc nous, par exemple, nous louons actuellement 31 toitures, soit des collectivités, soit des particuliers. Et une fois qu'on a loué la toiture, on installe dessus une installation photovoltaïque. Et dans ces 31 installations, on paye un loyer au propriétaire, qui est plus de l'ordre de l'indemnité due à la gêne occasionnée qu'un réel revenu, parce que par exemple pour une 9 kW de crête, on leur paye 150 euros de loyer par an, donc c'est pas ça qui va vraiment les enrichir. Et nous, après, on paye toute l'installation, on s'occupe donc de sa mise en place dans les normes, et ensuite on assure la maintenance, la surveillance et l'assurance de cette installation. Pour l'instant, notre modèle était, jusqu'à l'année dernière, de revendre cette électricité à EDFOA ou Enercop. On récupère donc les revenus, ce qui nous permet de générer des fonds propres pour faire de nouvelles installations. L'intérêt de notre modèle, c'est que du coup, on mutualise les bonnes volontés, c'est-à-dire que par exemple, il y a des personnes qui nous ont amené des fonds propres parce qu'ils auraient bien voulu en mettre sur leur toit, mais leur toit était mal positionné avec le masque d'une falaise. Ça arrive souvent chez nous. Voilà, donc en fait, nous, on met tout en commun. Et puis aussi avec un effet de levier, parce que comme le réseau maintenant est bien connu des systèmes bancaires, on a des banques partenaires qui nous suivent. Et du coup, on arrive en apportant à 15 à 20% de fonds propres, à avoir des crédits sur 80%, voire 85%. Et du coup, en fait, quand quelqu'un nous donne 100 euros, bah nous, derrière, on fait 500 euros d'installation. Alors, en fait, dans le réseau des centrales villageoises, il y en a maintenant, il doit y avoir 77 territoires impliqués qui ont des centrales villageoises en France. Il y en a à peu près un cinquième qui sont vraiment sous forme de coopérative, ce qu'on appelle une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. Et il y en a 80% qui sont comme nous sous forme de SAS, c'est-à-dire qu'officiellement sur le papier on n'est pas une coopérative. Par contre, nos statuts sont tout à fait du type coopératif avec une voix par actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il détient, une limitation de l'actionnariat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus de 20% des parts. En fait, le seul qui approche ces 20% chez nous, c'est la communauté de communes. On a 8 actionnaires qui sont les 6 communes de notre territoire, puisque Vercors Soleil, en fait, comme toutes les centrales villageoises, a un territoire défini sur lequel il peut travailler. Donc nous, c'est le plateau du Vercors Sud et la commune de Rancurel qui est dans le même synclinal médian du Vercors. Voilà. Donc on est sur ces 6 communes qui sont toutes les 6 actionnaires. On a aussi la communauté de communes du Royan-Vercors qui est actionnaire et le parc naturel régional du Vercors aussi.
Ok, donc ce territoire est limité, vous ne pouvez pas aller au-delà
de... On ne peut pas aller au-delà, surtout nous, sur le fait qu'en fait, on est cerné d'autres centrales villageoises. Les parcs naturels régionaux et surtout le parc naturel régional du Vercors ont été très impliqués au départ. Et du coup, il y a eu beaucoup de sites pilotes. Tout le parc naturel régional du Vercors est couvert par des centrales villageoises, à l'exception de la région du Diwa, où il y a un autre collectif qui n'est pas centrale villageoise, mais qui est sur le même principe d'une coopérative citoyenne qui fait aussi la même chose. Voilà. Et du coup, en fait, ben voilà, on ne va pas aller piquer des toitures ou des actionnaires sur le territoire d'à côté. Quand les gens nous contactent, on les renvoie vers la centrale villageoise de leur territoire.
Donc ça a une limite de produire de l'énergie en fonction du besoin du territoire.
Voilà.
Et s'il y a un excédent d'énergie, elle est redistribuée.
Jusqu'à présent, on revendait EDFOA. Après, EDFOA, il en fait ce qu'il veut de cette électricité. Alors, physiquement parlant, les électrons, ils vont au plus court. Donc, quand on a une installation dans un hameau, par exemple sur le toit d'une maison dans un hameau, en fait, les premiers qui consomment cette électricité verte, c'est les gens du hameau, physiquement parlant. Mais après, c'est ce qui se passe au niveau national, en fait. Chacun achète son électricité au fournisseur qu'il veut. Et nous, en fait, actuellement, la production de nos 31 installations, ça correspond environ à l'équivalent de la consommation de 300 particuliers sur le plateau, quoi. En moyenne, hein, c'est une moyenne tirée de chiffres nationaux. Voilà. Donc, on a l'ambition d'aller plus loin, de continuer à en faire, en sachant que pour l'instant, tant qu'on est sur le photovoltaïque, c'est forcément intermittent, c'est-à-dire qu'on a à peu près 75% de notre production qui a lieu l'été et dans la journée. Donc on cherche à développer d'autres sources, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu la mise en place au niveau européen de ce qu'on appelle les communautés d'énergie, qui s'est traduit en France, entre autres, par ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. C'est-à-dire que, par exemple, comme dans le cas de Vercors Soleil, puisqu'on a monté une boucle d'autoconsommation collective sur notre territoire, de 6 communes, là, c'est-à-dire que l'électricité qu'on produit, au lieu de la vendre à EDFOA, on peut la vendre directement à des consommateurs sur le territoire.
Comment ça se passe, alors ?
Alors, en fait, le consommateur intéressé va devoir signer 2 contrats de fourniture d'électricité, un avec nous. Mais comme nous, on ne peut pas fournir toute l'électricité dont il a besoin, entre autres la nuit, puisque nous, on produit de l'électricité que dans la journée avec le soleil, il faudra qu'il garde un contrat chez son fournisseur traditionnel. Ensuite, cette personne recevra 2 factures d'électricité au lieu d'une. Du coup, ça permet aux clients de cette boucle d'autoconsommation de favoriser de l'énergie renouvelable et de l'énergie faite localement, donc qui profite plus au territoire qu'à des grands industriels qui fournissent de l'électricité, que ce soit à travers une centrale nucléaire, à travers des champs d'éolien à l'autre bout de la planète. Et en plus, l'intérêt, c'est que nous, étant donné qu'on sait combien on a payé l'installation qui va fournir ces électrons, et qu'on a un business plan sur 20 ans pour payer cette installation, et nous, nos prix sont stables. Et donc, en fait, ce qu'on vend à nos clients, c'est surtout de leur dire... en dehors de permettre le développement des énergies renouvelables locales, on vous garantit aussi un prix sur 20 ans qui va augmenter d'1% par an, par exemple, dans certains de nos contrats. Voilà, vous savez quel prix vous payerez l'électricité dans 20 ans, enfin en tout cas la part que Vercors Soleil vous fournira.
Et alors, ces gros vendeurs d'énergie, là, ils sont contents de la présence des centrales villageoises à travers la France? Ça réagit comment de l'autre côté?
Alors, dans l'ensemble, au départ, je pense qu'ils regardaient ça avec un sourire amusé. En fait, alors, pas que le réseau des centrales villageoises, mais il y a énormément de projets de boucles d'autoconsommation collective qui se développent en France avec des collectifs citoyens. Certaines entreprises qui ont compris l'intérêt, des grosses collectivités, ils font des boucles d'autoconsommation collective comme ça, mais pour alimenter leurs propres bâtiments. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective patrimoniale. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un client, c'est eux-mêmes. Mais ça leur permet de diminuer leur facture d'électricité et surtout d'avoir, comme je vous le décrivais, un prix stable sur les années à venir. Donc, les gros énergéticiens, bon, pour l'instant, on leur fait pas d'ombre, mais commencent à trouver que c'est... Mais ensuite, ils n'ont pas le choix, puisque c'est une directive européenne qui a été traduite dans le droit français. L'intérêt qu'on y voit, c'est de développer les énergies renouvelables et aussi, surtout, de développer leur acceptabilité. C'est-à-dire que là, du coup, les gens, ils touchent du doigt quel est l'intérêt de ne pas dépendre d'un marché immense sur lequel personne n'a de prise, mais de participer à une économie quelque part locale, puisque nous, on fait travailler des installateurs locaux. Les gens qui ont investi pour apporter les fonds propres, bah, c'est des habitants qui ne passent pas s'enrichir de façon démoniaque, hein, puisqu'on leur indique qu'on espère avoir une rentabilité de 2% par an de dividendes sur leurs actions, que pour l'instant, on n'a valorisé qu'une fois. Parce que lors d'Assemblée Générale, on a décidé qu'on mettait nos bénéfices pas dans le versement de ces 2% de dividendes, mais dans l'emploi d'une salariée. Donc on a une salariée depuis 2 ans et demi qui nous permet d'accélérer justement, de faire plus de chantiers, parce que sinon on n'était que des bénévoles. Donc on a une salariée depuis octobre 2022 qui travaille 2 jours par semaine pour nous. Il y a une association nationale qui chapeaute ce réseau, qui a 4 salariés, qui travaille sur différents sujets de fond et, pour toutes les centrales villageoises de France. Et entre autres, on a des réflexions au niveau de cette association nationale sur, par exemple, comment aider les gens en précarité énergétique à travers ces boucles d'autoconsommation collective. Et l'idée, c'est de pouvoir se dire à un moment, bah, par exemple, tous les consommateurs de la boucle pourraient décider que, au lieu de réduire un petit peu le prix auquel on vend l'électricité au sein de cette boucle, on le maintient à ce prix-là, même si on fait quelques bénéfices, mais ça permet, par exemple, via les CCAS des mairies, d'inclure dans la boucle des personnes qui sont en précarité énergétique pendant quelques mois, quelques années peut-être, en leur faisant un tarif préférentiel, voire en leur vendant de l'électricité à un prix nul.
Il semble que vous arrêtiez pas là, c'est-à-dire que il n'y a pas que la consommation de l'énergie dans les maisons, mais vous abordez aussi la question de la mobilité.
Tout à fait. Alors, on a au sein de notre ADN, dans les statuts même de la société, il y a aussi la promotion d'une transition énergétique et écologique. On a travaillé sur, par exemple, créer des conversations carbone. Donc bah, c'était entre autres notre nouvelle présidente qui a mené ça pendant quelques années, de réunir comme ça des gens avec lesquels on faisait des conversations carbone. Alors c'est très chronophage parce que c'est 6 soirées dans l'année où les gens se retrouvent pour parler un peu justement de leurs émissions de carbone et essayer de trouver bah, sur quelle piste je peux travailler. Tout le monde ne pourra pas être 100% vertueux, enfin il y en a peut-être quelques-uns qui arrivent, mais... on n'est pas encore à ce paradigme, donc c'était plus de réfléchir collectivement sur « bah oui, tiens, moi, je pourrais m'emparer de ce volet-là ». Par exemple, je ne sais pas si j'avais pris l'habitude de faire un voyage à l'autre bout du monde pour aller voir des nouveaux paysages ou des nouvelles populations, et bah, peut-être que je pourrais en faire qu'un tous les 3 ans, et bah, finalement, je réduis de 60% mon empreinte carbone, au moins sur cet axe-là. D'autres qui vont dire bah, « peut-être je pourrais faire plus de vélo ». Finalement, parce qu'effectivement, bah dans la conversation, il y a quelqu'un qui amène le fait que bah, lui, il est passé au vélo électrique et qu'il laisse sa voiture, ou que même il s'est débarrassé de sa 2e voiture, parce que voilà, c'est des sortes d'idées. Et du coup, sur ces histoires de mobilité, on s'en est emparé aussi au départ sur une expérimentation qu'on souhaitait faire en lien avec la communauté de communes dans les années 2019, du Royan-Vercors, qui était de dire, bah, quand on en parle, tout le monde trouve ça super de partager des voitures, mais Est-ce que dans la pratique, ça va résister aux contraintes liées à ce mode d'utilisation? Du coup, on a acheté une Zoé qu'on assure, qu'on entretient.
Une voiture électrique,
donc oui. Et qu'on met en autopartage au départ de la mairie de La Chapelle, au départ en 2020. Maintenant, on a deux véhicules électriques, deux Zoé, qui sont en autopartage soit au départ de La Chapelle, soit au départ de Saint-Martin-en-Vercors. Et on s'aperçoit qu'effectivement, malgré l'accueil enthousiaste de beaucoup de gens, bah finalement, on a beaucoup de mal à pérenniser ce service parce que finalement, on manque d'utilisateurs. Donc, les contraintes, en fait, sont trop fortes peut-être, en tout cas dans nos territoires ruraux, parce que effectivement, les systèmes comme Cities, etc., en ville, ça marche plutôt bien. Nous, c'est vrai qu'on a déjà la contrainte que si vous habitez Vassieux, par exemple, que vous voulez descendre à Die, s'il faut que vous commenciez par venir en vélo à La Chapelle pour prendre une voiture, ça peut être une des contraintes. Enfin, il y en a d'autres, la prévisibilité de ces déplacements, la disponibilité des véhicules, justement. Si vous arrêtez d'avoir une deuxième voiture, bah, le jour où vous en avez vraiment besoin, il faut quand même que les voitures soient aussi disponibles. Voilà. Donc, il y a des contraintes qui font que ça marche pas si bien que ça. Mais petit à petit, dans la persévérance, on espère cette année peut-être arriver à un équilibre au moins sur les charges de fonctionnement parce que quand même, on voit que notre volume d'utilisation augmente un petit peu. Mais après, c'est très fluctuant. Parallèlement à ça, on a aussi participé à une expérimentation alors avec l'espace de vie sociale de La Chapelle-en-Vercors, donc la maison de l'aventure, qui entre autres fait l'accueil de loisirs sans hébergement. Et du coup, en fait, il y avait la problématique que le centre étant situé à La Chapelle, dans les villages alentours, on voyait bien que plus on s'éloignait de La Chapelle, c'est-à-dire Saint-Martin-Saint-Aignan, On avait encore quelques enfants, et Saint-Julien-Vassieux, on avait très sporadiquement des enfants de ces villages-là. D'où est venue l'idée que peut-être si on allait chercher ces enfants, on pourrait plus profiter de ce service offert par la communauté de communes, la caisse d'allocation familiale, la mutuelle sociale agricole. Et on a eu la chance d'avoir la conjonction de deux appels à projets, un émanant de l'Agence nationale de cohésion du territoire, qui a, pour faire simple, payé la navette, donc un minibus 9 places, et comme c'était à travers Vercors Soleil, du coup électrique, et sur 3 ans, son entretien, son assurance, etc. Et en même temps, il y a eu un appel à projet de la Mutuelle Sociale Agricole, qui s'appelait Grandir en milieu rural, et qui du coup nous a permis, pendant ces mêmes 3 ans, de payer un poste de chauffeur à mi-temps, alors à la fois chauffeur et coordinateur de la démarche. Et le dernier point de cette expérimentation qu'on va essayer cette année, c'est vis-à-vis des plus grands, les lycéens. Il n'y a pas de lycée sur le territoire, donc ils vont soit vers Villard-de-Lans, soit vers Saint-Marcellin, soit vers Romans. Et donc là, on est en train de mettre en place avec les parents l'utilisation de cette navette. Alors là, on fait l'essai avec le lycée de Saint-Marcellin, c'est une demande de parents de la Chapelle. Et aussi, on héberge. Mais alors là, on fait juste qu'héberger techniquement les pages nécessaires à des boucles de covoiturage sur Signal, qui marchent très très bien aussi. Ce qu'on se dit sur Vercors Soleil, c'est qu'on espère que la transition vers les énergies renouvelables va continuer à progresser. Le photovoltaïque est en plein boom, d'ailleurs au point que l'État recule sur toutes les aides, alors qu'il faudrait continuer à avancer, mais bon, c'est un autre sujet.
C'est peut-être le sujet.
Ça fait partie des sujets. Pour nous, c'est à chaque fois, tous les 2-3 ans, on est obligé de revoir notre modèle économique complet, parce que les règles du jeu, elles changent. Et ça, c'est pas facile en tout cas. Du coup, on espère, nos premières installations étaient faites en 2017, basées sur des crédits, comme je vous disais, de 80% du prix de l'installation est en crédit. Donc actuellement, en fait, grosso modo, nos recettes servent à payer en majorité des crédits. Quand ces crédits vont s'éteindre dans les années 2031-2032, en fait, là, à ce moment-là, on va récupérer quand même beaucoup plus d'argent. Et dans nos réflexions, on se dit, peut-être qu'on n'aura plus besoin d'investir dans des nouvelles installations de NR parce que ce sera parti, ça tournera. Et du coup, on se dit, là, par contre, on pourra, par exemple, sur ces bénéfices, réfléchir. Alors ça, ce sera aux associés de décider s'ils préfèrent qu'on mette des dividendes à 10% ou s'ils préfèrent rester dans la logique qui les a amenés à venir participer avec nous. Et du coup, aider les communes, par exemple, de notre territoire, nos 6 communes, à isoler les bâtiments publics. En participant aux travaux ou à de l'ingénierie de travaux.
Cette contradiction politique, est-ce que vous avez envie de nous donner votre point de vue ?
En fait, faut bien voir que nous, ce qui nous motive, c'est quand même cette lutte contre le dérèglement climatique. Je pense que c'est ce qui motive la plupart des actionnaires qui viennent nous rejoindre et nous apportent ces fonds propres pour développer les énergies renouvelables. Et c'est vrai qu'en France, on est dans un modèle assez particulier par rapport aux autres pays européens, entre autres. Je ne vais pas m'étendre au niveau mondial, mais... au niveau européen, en fait, on a à la fois un système très centralisé à travers EDF et les centrales nucléaires, et on a, il faut le reconnaître, un système de production d'énergie qui est assez peu carboné grâce aux centrales nucléaires. Et donc, en fait, une partie du moins de nos actionnaires est plus centrée sur le côté aussi que les énergies renouvelables comme le photovoltaïque, l'éolien ou l'hydraulique ne produisent pas de déchets nucléaires qui vont persister pendant des centaines de milliers d'années. Donc, en fait, on est un peu plus sur ce clivage au niveau français. Est-ce que la décarbonation, on la continue avec du nucléaire, mais qui pour, en tout cas moi personnellement, mais ensuite je pense une grande majorité des actionnaires de Vercors Soleil, posent d'autres problèmes qui sont peut-être même aussi graves, ou en tout cas plus grave, ou conjointement avec le réchauffement climatique qui va nous poser d'autres très gros problèmes au niveau structurel de nos pays. Voilà, gérer des centrales nucléaires, est-ce qu'on saura encore le faire dans 100 ans quand on sera par 50 ou 60 degrés voilà. Donc il y a ce côté, continuer à promouvoir des énergies renouvelables qui ont aussi leurs défauts, hein, bien sûr, mais qui sont des défauts qu'on sait gérer maintenant et qu'on ne reporte pas sur le dos de nos... vous me posez la question sur la politique, donc je vous réponds sur un côté politique. Quand j'entends nos gouvernements dire qu'on endette nos enfants et que c'est un scandale et qu'il ne faut pas leur laisser ça, moi personnellement, je suis beaucoup moins inquiet de la dette financière qu'on peut leur laisser actuellement que de la dette des déchets nucléaires et même des installations nucléaires qu'on va leur laisser. Et voilà, mais c'est un point de vue particulier qui n'engage pas forcément tous les actionnaires de Vercors Soleil. Si on est tous pour cette transition décarbonée et plus d'énergie renouvelable, on n'est pas forcément tous d'accord sur la part que doivent prendre les énergies renouvelables sur le nucléaire.
Oui, merci. Là où vous en êtes, après toute cette aventure, ces belles énergies collectives et ce point politique qu'on vient de faire, est-ce que vous avez un message particulier à envoyer là sur les ondes ?
Oui, il faut plus d'énergie renouvelable, décarbonée et non nucléaire en France. Et c'est important aussi de s'intéresser, il existe pratiquement partout en France où vous habitiez, et donc du coup sur nos territoires, il y a plein de centrales villageoises qui existent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes actuellement. Maintenant, on est en train de remplir les dernières pièces du puzzle qui manquent. Donc voilà, c'est très facile d'en trouver une près de chez soi. Et c'est important, je pense, de se réapproprier ce problème de l'énergie en se disant, mais on peut tirer des ressources de notre territoire. Et là, du coup, on rejoint aussi bien le problème du nucléaire que des énergies carbonées. C'est que l'indépendance de la France, l'indépendance énergétique, effectivement, pour l'instant, on achète beaucoup trop de panneaux en Chine, et ça c'est un autre débat. Par exemple, nous chez Vercors Soleil, on paye nos installations plus cher, mais parce qu'on met des panneaux assemblés en France. Les cellules, elles, sont fabriquées aussi en Chine ou en Extrême-Orient. Mais par contre, une fois qu'on a installé un panneau solaire, même si pour l'instant il est chinois, pendant 30 ans, il va produire de l'énergie avec du soleil français. Alors que toutes les autres énergies, y compris le nucléaire, on importe 100% d'uranium actuellement en France. Donc on dépend des conjonctures internationales. D'où l'intérêt de se recentrer localement.
Merci, merci beaucoup Jean-Éric.
Je vous en prie, bonne journée.
Merci.
Bonjour. Je souhaiterais m'inscrire pour l'autopartage. Alors, je viens d'arriver dans le coin. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu et puis faire l'inscription ?
Oui,
Alors, on a plusieurs véhicules. On a deux Zoé et un Jumpy qu'on met en autopartage. Ils sont généralement stationnés à La Chapelle ou à Saint-Martin. Donc, pour pouvoir s'en servir, il faut remplir les conditions générales de mise à disposition, un contrat. Il faut fournir les copies du permis de conduire et donner également une copie de la pièce d'identité.
Oui,
voilà. Ensuite, on vous donne un numéro d'utilisateur. Avec ce numéro d'utilisateur, vous pouvez aller sur le site de Vercors Soleil sous l'onglet autopartage.
Okay.
Il y a un petit tableau où on voit quand est-ce qu'elles sont prises, les voitures. Et en dessous, il y a pour s'inscrire. On vous envoie un code. Mmh. Avec ce code, vous allez, si vous êtes à La Chapelle, à la mairie de La Chapelle, vous faites le code pour récupérer une petite clé. Et on propose également, pour les gens qui n'ont jamais conduit de voiture électrique ou qui ne se sentent pas très sûrs, on peut venir avec eux pour leur faire faire une petite démonstration, les aider, faire une première prise en main.
Ah, avant le jour J.
Avant le jour J.
Ah, c'est super. Et donc, aujourd'hui, là, on est
à Saint-Martin sur Pédale Douce.
Ah, voilà, le festival du vélo, en fait.
Du vélo et de la mobilité douce.
Voilà pourquoi vous êtes présent.
Voilà, parce qu'en fait, nous, les voitures, on les propose, c'est plutôt pour éviter aux gens d'avoir une deuxième voiture, pour se dépanner, etc., pour aller vers moins de voitures. Ce n'est pas un service de location comme on en trouve de partout. C'est un petit peu artisanal puisque pour récupérer la clé, il faut qu'on se déplace, nous, etc. Donc ça prend un peu de temps. Vous ne pouvez pas commander à minuit pour l'avoir à 1h du matin. Ce n'est pas possible. C'est moins souple, mais voilà, c'est pour inciter les gens à ne pas avoir une deuxième voiture, à se déplacer occasionnellement, voilà.
Ouais, c'est plus un esprit de transmission, d'accompagnement, oui, au changement, quoi.
C'est ça, et pour réduire le nombre des véhicules aussi. Et donc aujourd'hui sur Pédale Douce, on a nos voitures qui sont là et on en a une qu'on peut faire essayer.
Ah génial.
Voilà.
Ah,
c'est
ça
possible.
Ça pourrait être l'occasion alors.
Ça pourrait être l'occasion.
Ah,
tout à fait.
Super.
On a une petite Zoé qui peut faire des kilomètres pour rester sur le plateau, pour aller dans le Royan. Pas beaucoup plus loin, elle a à peu près 75-80 km d'autonomie. Ça dépend si c'est l'hiver, l'été, voilà, parce que ça joue beaucoup sur les batteries. Le premier prix de la demi-journée est à 20 €. Et ensuite, on a celle qu'on appelle AZ40, qui a beaucoup plus d'autonomie, qui peut faire deux fois l'aller-retour Grenoble, par exemple, en été, sans recharger, qui est à la journée à 35 €. Et dans les prix, tout est compris, y compris les recharges.
Donc, nous allons faire un petit tour de Zoé, de voiture électrique. Super. Nous partons avec Dominique de Vercors Soleil.
C'est ça.
Vous êtes bénévole à Vercors Soleil.
Alors, moi, j'ai un tout petit temps sur Vercors Soleil, uniquement pour gérer les voitures.
Voilà. Un petit temps, vous dites salarié.
Oui, salarié vraiment très minime, un pourcentage très très faible, juste pour faire l'autopartage. Voilà, sinon, c'est des bénévoles qui gèrent l'autopartage.
C'est celle-ci, là ?
Ouais.
Ah oui, elle est branchée, là.
Ouais, va falloir la débrancher. Enfin, va falloir la prendre normalement, quoi.
Comme en vrai, quoi.
Comme en vrai, c'est ça.
Yes.
Alors voilà, on est devant le boîtier. Donc, sur votre téléphone, vous avez reçu un code.
Ok.
Voilà. Donc, vous arrivez devant le boîtier.
Ouais. Et là, ici, je fais mon code.
Voilà.
Là, c'est bon ?
Ouais. Donc, il faut ouvrir la boîte à clé.
Ah, c'est, elle est là. Oh, yes. Et là, il y a une petite clé,
voilà,
que je
qui
prends.
Permet d'ouvrir le coffret. Vous allez donc, récupérer la clé de la voiture.
Ah, et donc, c'est la plaquette, là.
C'est ça. Donc, il faut débrancher la voiture.
Ok.
Sur les clés des Zoé, il y a un petit bouton pour débrancher.
Alors là, ici. Là.
Voilà, on entend un petit clac. On peut récupérer le chargeur. Voilà. On pense bien à mettre à chaque fois le câble dans la voiture. Chaque voiture a son câble. Eh bien, allons-y.
J'ai un peu le trac, hein, parce que moi, j'ai jamais conduit de voiture automatique.
Alors, pour allumer, il faut mettre la carte.
Alors,
quand on conduit une voiture électrique, c'est comme une voiture automatique, on oublie son pied gauche.
Oh, ça va être dur. Hein.
Donc ça, c'est le levier de vitesse. Ouais. Il n'y a pas de 1, 2, 3. Il n'y a que le parking, là où elle est, Premier cran, c'est pour reculer. Là, c'est le neutre. Et là, c'est pour aller devant, pour avancer. Pour démarrer, on reste sur le frein parking.
D'accord.
Et pour démarrer, c'est start-stop.
Ok. Là, ça a démarré déjà. Ça fait pas de bruit, quoi. Donc là, ah oui. Et ça, comme ça.
Voilà. Là, on est sur avancer, sur le D devant.
Ouais, ok. Et là, j'enlève le
frein à main.
Frein à main. Et là. Ah, c'est étrange. C'est... Ok. Là, hop, re sur D. Ouh ! Ça coule, quoi.
Une fois que c'est parti, c'est parti. On va faire un petit tour comme ça, sur les petites routes.
Ouais.
Allez, c'est parti.
Ah, y a rien à faire.
Non.
Si, freiner, quoi.
Freiner, accélérer, et c'est tout. Et ça fait pas trop de bruit.
Et là ?
Ouais, après la maison, là-bas, on tournera à gauche et on va atterrir juste à côté de la barrière.
Ok.
On va essayer de passer un moment en dessous de 30 km/h pour voir le petit bruit. Non, c'est bien, parce qu'au début, normalement, quand on arrive vers des CD, le passage, des stops, on donne un grand à coup, on cherche à rétrograder. Non, là, je trouve que c'est fluide comme conduite, bravo hein.
Ah bah super, mais je mets tout doux, hein, pour sentir la chose.
À gauche.
On a le parking, et on entend de nouveau le son, en dessous de 30 km/h. Oui, on ne cale pas en fait avec la voiture électrique.
On ne cale pas avec la voiture électrique.
C'est un peu comme le diesel en mieux, quoi.
Beaucoup mieux.
C'est la blague du jour. Eh ben, une grande première. C'est bien là. Et je me mets en P.
Ouais.
Point mort.
Point mort. Parking. On va dire.
Parking. Voilà. Et là, je stoppe.
Ouais. Et dans la coudoir, là, entre les deux sièges, on
oui.
peut l'ouvrir. Si besoin, il y a une carte de recharge.
Ah la voilà, la carte de recharge dans la coudoir.
Super. Et bien maintenant, il faut refaire la même chose, mais dans l'autre sens.
0,2,460. Clac. On récupère la clé, on ouvre ici. On va rebrancher la Zoé. Hop.
Notre petit son de chargement là.
Là, je remets la clé dans la boîte à clé, je ferme la boîte à clé et là, c'est tout bon.
Et là, c'est tout bon.
Merci beaucoup. Hein.
Bah de rien, avec plaisir.
Super, c'est très instructif, émouvant.
Moi, je dirais agréable parce que quand il fait beau comme ça, qu'on a les fenêtres ouvertes, on n'a pas le bruit du moteur. On est bien, quoi. Si on écoute de la musique, on entend vraiment la musique. Si on ouvre les fenêtres, on entend ce qui se passe dehors. C'est bien. Il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de gaz d'échappement. On respire, même quand on fait la queue dans les bouchons.
Ah, on va finir par aimer les bouchons, dis donc, chouette. Ben, merci beaucoup.
Avec plaisir.
C'était l'ADN,